souligne qu'on pourrait partager ici, c'est que c'est pas qu'il y a forcément une substitution de la question centre-périphérie à la question nord-sud. C'est qu'en réalité, on a des logiques d'inégalité qu'on pourrait qualifier de fractales, en fait. C'est-à-dire qu'on a des déséquilibres macro-régionaux qui s'accompagnent, pour plein de raisons qu'on connaît ici aussi, sans doute, hein, de mobilité, de spéculation immobilière, etc., de déséquilibres micro-locaux. Et à la limite, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que c'est presque pour partie des mêmes phénomènes de mobilité des personnes qui fabriquent du déséquilibre macro-local, macro-régional et du déséquilibre micro-local. C'est bien la question de la mobilité à un moment donné aussi qui explique ça. L'autre point moi, que je trouve très très intéressant, c'est au fond c'est ce que tu expliques à la fin du tournant des politiques publiques italiennes, c'est au fond le fait de sortir d'une logique de redistribution, enfin d'affectation spécifique intranationale de fonds, pour passer à une logique européenne plus classique. Et j'ai l'impression d'ailleurs que l'État italien est assez coutumier du fait d'un très bon usage des fonds européens, y compris pour ses politiques, ses propres politiques.
Je précise d'ailleurs, pas forcément des fonds, en Italie, comme de France n'a pas de leçon à donner, on a des problèmes de retard. C'est surtout dans l'affichage politique, dans l'utilisation politique. Mmh. Alors que les Français ont souvent freiné des cas de fer, et puis ça se comprend aussi, on a une tradition française d'aménagement du territoire, et les Italiens l'avaient, mais ils étaient dans une telle panade, si je puis dire, parce qu'il faut bien voir qu'à la fin des années 80, début années 90, c'est le moment où naît la Ligue, mais c'est aussi le moment du scandale de l'opération main propre, de la guerre en Yougoslavie, enfin... Ça va vraiment pas. Et donc, c'est à ce moment-là que l'intervention extraordinaire dans le Sud a été mais très violemment attaquée. Le mot Mezzogiorno était devenu un gros mot à l'Assemblée. Et donc, le gouvernement Dini et autres à l'époque ont eu vraiment l'astuce d'européaniser pour résoudre une question italienne. Ça tombait bien. Il se trouve que les disparités, les priorités de la politique de cohésion à l'échelle européenne tombent pile poil sur le problème italien. Et donc ça a vraiment bien fonctionné quand même. Et si vous allez vous balader aujourd'hui à Naples ou à Palerme, mais c'est vrai aussi en Espagne, vous verrez aussi afficher les fonds européens absolument partout, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je travaille un petit peu sur la France.
C'est pas le cas en France.
Ah non, pas du tout. C'est aller à Villetaneuse, la passerelle entre l'université et la mairie. Bon, y a le panneau, c'est obligatoire, mais...
C'est un adjuvant discret des politiques publiques nationales.
Alors que les régions italiennes se sont servies de l'Europe pour dire attendez, on est normal nous aussi. On n'est pas que des corrompus. Enfin, il y a de la corruption, il y a tout ce qu'on veut. Mais ils se sont servis en tout cas de l'Europe aussi pour dans une logique de normalisation de l'action publique.
Alors, j'ai juste une question qui est peut-être un peu anecdotique, c'est ce que tu montres au fond avec l'accession au pouvoir d'État du côté de la Ligue, le dépassement d'une attitude disons sécessionniste ou plus ou moins sécessionniste, etc. Mais la perte de pouvoir, est-ce que ça ne va pas réactiver le côté sécessionniste de la Ligue?
Alors, à mon avis, non, parce qu'il a trouvé un cheval de bataille beaucoup plus porteur.
C'est
incroyable. Jamais la Ligue n'avait fait 34%. Jamais. La Ligue, elle avait fait au maximum 11-12% dans ses grandes années. Elle pouvait avoir 34% et autres en Lombardie, en Vénétie, mais à l'échelle nationale, ça n'a jamais marché comme ça. Donc,
Elle a jamais fait 34% dans les élections, là, sur les sondages. Elle est à 34% dans les sondages.
Oui, mais bon,
elle est à 17% aux dernières élections quand même.
Oui, mais bon, elle a été au pouvoir.
Et à l'Europe, aux élections européennes, ils ont répondu
Que je dise pas. Là, je risque de dire des bêtises, mais ils étaient sur.
Les élections européennes, peut-être à 32%.
Je pense que.
Ils ont bien montré.
C'est très. Après, voilà, ce qui s'est passé. Moi, ce qu'illustre aussi la Ligue au pouvoir, c'est à quel point on ne peut pas prendre l'État italien comme un tout. C'est quand même étonnant, ces juges qui assignent le Premier ministre en justice, le Premier ministre en exercice. C'est militaires qui disent non, C'est incroyable. Enfin, franchement, c'est étonnant. Hein. On a, moi, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Quoi.
Je crois c'est très curieux. C'est pas du tout la même logique que, que chez nous. Alcune domande?
On peut élargir le débat. Hein.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques des demandes de précision sur l'Italie ou des comparaisons? Oui, la Nouvelle-Aquitaine parle à l'Italie. Est-ce que vous pouvez quand même vous représenter, s'il vous plaît, à chaque fois? Non? Il faut peut-être...
Allô,
oui, ça. C'est parfait.
En fait, là, c'est pas tant la Nouvelle-Aquitaine, c'est...
C'est l'ancien Limousin.
Oui, ancien Limousin, gestionnaire des fonds européens. Et puis, précédemment, j'étais économiste des marchés parallèles et de l'économie informelle. Donc, c'est plutôt avec cette casquette-là que j'interviens. Je me pose la question vraiment de... J'ai beaucoup donc travaillé sur les marchés parallèles, pas sur l'Italie, mais sur d'autres pays, en essayant justement de valoriser, de calculer cette économie informelle pour pouvoir ensuite la modéliser des chocs de politique économique. Et du coup, votre diagnostic, il est basé sur des données Eurostat qui, à mon avis, pour ce qui concerne l'Italie, sont pas du tout fiables, au moins dans certains domaines. Et donc, du coup, je me dis, vous avez évacué... sur une diapo en disant bon, l'économie informelle n'explique pas tout, n'explique pas le paradoxe que on constate.
Ça, c'est des données nationales, hein, c'est ISTAT, mais bon.
Oui, enfin bon, voilà, les données nationales, c'est pareil. Mais parce qu'elles remontent après
aussi. Oui, oui.
Donc, moi, je pense que sur l'Italie en particulier, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de cette économie informelle. Et du coup, il faudrait revisiter ce diagnostic en ayant en tête qu'il y a peut-être entre 20 et plus de un tiers de l'économie qui est parallèle en Italie. Et peut-être dans certaines régions qui sont encore plus... Enfin, une part beaucoup plus importante. Et ça, ça peut expliquer plein de choses. Le fait, ça peut expliquer... le paradoxe que vous avez soulevé sur la carte qui montre quelque chose et vous sur le terrain qui ressentez, qui voyez autre chose. Donc voilà, c'était juste cette remarque-là. Puis deuxième remarque sur la gestion des fonds européens. C'est vrai que c'est peut-être ce qui a poussé l'État français d'ailleurs à transmettre la gestion des fonds européens il y a 6 ans aux régions, puisque... en se basant sur ce qui se passe en Allemagne et puis en Italie. C'est en Italie, les régions gèrent les fonds européens depuis longtemps. Et c'est ce qui peut expliquer justement qu'il y a une visibilité, enfin déjà une meilleure utilisation des fonds, parce que ça va peut-être au plus près des besoins des territoires. Plus. Et puis ensuite, en termes de com, ben oui, elles savent faire.
C'est aussi un point intéressant parce que ça nous permet de parler aussi des mécanismes de redistribution européens, enfin, par la bande. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ça ce matin et c'est quand même une question importante, même si ce que tu dis, c'est que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même de l'argent frais.
De
l'argent non affecté. Enfin,
Et non seulement ça, mais les Italiens n'ont pas de contrat de plan ou de projet État-région. Et donc, du coup, la programmation européenne, c'est très important pour se projeter dans une programmation pluriannuelle. Et donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quoi. Toutes les régions italiennes bâtissent leur programmation économique et leur collaboration avec l'État. Et l'État lui-même, il faut bien voir que l'équivalent donc, du CGET qui nous accueille aujourd'hui ici, c'est le Dipartimento per la Coesione. Donc voilà, ça parle tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont totalement européanisé la terminologie, c'est hébergé... au ministère des Finances en général, mais enfin voilà, quoi, ça leur pose pas de problème ni sémantique ni de fond, et c'est vraiment un rôle important. Sur l'informel, moi je suis pas du tout spécialiste du sujet. Ce que je voulais juste dire, c'est que bien sûr que l'informel permet aux gens de vivre, mais il ne corrige pas le rêve du post-office, avoir quelque chose de sûr, de régulier, c'est quelque chose d'important, et y compris des gens qui ont passé leur vie dans l'informel, ça ne remplace pas forcément ça, même si, Pascal Froment, la collègue que je citais, montre très bien des cas où, au contraire, elle a beaucoup enquêté un app, quelquefois le salarié, pour telle ou telle raison, va refuser des formes de formalisation, hein. Mais, et puis, en plus, elle montre aussi qu'il y a des entreprises qui sont complètement informelles, mais qui pratiquent les congés payés, par exemple, la cinquième semaine. Enfin, donc on est dans du gris, en réalité, très souvent, plus que dans l'informel. Mais, disons que dire le correctif, voilà, c'est l'informel, moi, ça ne me satisfait pas, parce que c'est quand même souvent des formes de mal-être. Il n'y a pas que ça, hein, je nuance, mais... il ne faut pas la sous-estimer non plus, la situation des jeunes femmes en particulier, c'est vraiment un souci, quoi. Elles sont complètement hors champ de pas mal de politiques. Après, évaluer l'informel, c'est extrêmement compliqué. Alors, l'ASVIMETS citait, si on prend en compte non pas le travail, mais l'évasion fiscale, qui est un sport national en Italie, les taux sont rigoureusement les mêmes, par exemple, en Italie du Nord et en Italie du Sud, quoi. Donc, c'est, du coup, si on veut... il y a plein de choses qui sont...
Oui, c'est quand même une nation, hein.
Ouais. Voilà. Mais bon, l'informel, alors, en plus, comme je l'indiquais tout à l'heure, de plus en plus, on voit se développer les métiers autour de la culture. S'il y a un secteur qui est ouvert à l'informel, où que ce soit, en France comme en Italie, c'est bien la culture. Et donc, ça renforce cette affaire-là, hein, ça renforce cette atomisation aussi du monde du travail, enfin, voilà. Après, moi, c'est pas mon champ de compétences.
On va prendre une... Donc, il y avait une autre question, une autre intervention Sandra, tu voulais dire un mot?
Oui, mais...
Ah, vas-y, non mais... vous pouvez laisser parler votre directrice? Non.
On va faire des collèges, un collège territorial.
Moi, c'était une remarque un peu plus générale.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, Vincent Bonafou, Alfara, ancien DGA de collectivité et consultant depuis. C'est une remarque un peu plus générale qui repart de la toute première photo que vous avez montrée, la cartographie des pollutions nocturnes, et avec cette impression qui... Cette impression, quand vous le présentiez, que derrière ça, il y a une espèce de logique du bon modèle, et puis des modèles qui ne marchent pas. Et que, comme par hasard, les modèles qui ne marchent pas sont au sud. Et que c'est toujours les gens du Nord qui expliquent ce qu'il faut faire. Et ça conjugue bien avec votre conclusion. Et il y a quelque part, on a ressenti ça quand on est à Londres, on a ressenti ça quand on était à Bruxelles. Il y a quand même quelque part, un endroit, cette impression qu'à travers l'Europe, il y a un modèle qui marche, il faut bien dire ce qui est, mais qui voudrait absolument s'imposer à d'autres endroits où peut-être que ce modèle n'est pas fait. Et voilà, j'aimerais avoir un peu votre impression là-dessus.
Je suis totalement d'accord, et même, franchement, au moment de la crise des dettes souveraines, moi j'ai été surprise, quoi. Mais comment on peut imaginer qu'un pays aussi important et aussi riche, où en plus la dette est détenue par les familles, enfin après, il y a eu des faillites, il y a eu plein de trucs, d'accord, mais enfin, comment on peut imaginer une seconde, cette fiction, mais qui n'est pas une fiction, puisque ça appauvrit l'Italie, enfin vraiment... L'idée, et ça a été extrêmement mal vécu par les Italiens, pas seulement sur le plan de leur porte-monnaie, hein, je veux dire, voilà, ça les a appauvris, mais sur le plan, ils sont membres fondateurs de l'ancienne CEE, de l'Union Européenne, ils n'ont pas compris, je pense qu'ils n'ont pas compris cette...
Préciser la fiction dont vous parlez.
Cette idée que l'Italie pouvait s'effondrer, moi franchement, je ne suis pas économiste, mais ça me paraît c'est un pays riche, fondamentalement. Et donc, en plus, cette crise des dettes souveraines, on a bien vu à quel point elle s'est diffusée comme un feu follet, puis du jour au lendemain, ça a disparu, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui s'en fait de l'argent. Mais l'Europe du Sud a vraiment, et je vous parle de l'Italie, mais là, je reviens on a fait une école doctorale en Grèce début de juillet, bon, c'est vrai que les conséquences sur la Grèce sont vraiment très, très dures, quoi. Hein, donc après, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je suis totalement d'accord avec votre remarque. l'Europe en ce moment souffre d'un excès, parmi d'autres problèmes, mais d'un excès de modélisation du bon. Il y aurait une seule voie. Quoi. Et pour moi, la stratégie Europe 2020, elle est un peu trop. Bien sûr, elle s'est soi-disant élargie, tout ça, mais elle est quand même un petit peu trop tout sur le même registre. Quoi. Parce que là, on le voit bien, par exemple, sur le. Ben, l'Italie, on ne se comprend même pas pourquoi elle n'a pas fait faillite, quoi, d'après la stratégie Europe 2020, puisqu'elle est décalée à peu près de partout. Et ses niveaux de richesse ne correspondent pas. Quoi. Donc il faut penser la diversité. Il n'y a pas que l'économie. Les districts industriels, ce n'est pas que de l'informel. Hein. Franchement, ça, il ne faut pas s'imaginer ça. C'est très très peu d'informel. Hein, mais ce qu'il faut pour l'huile dans les rouages, et c'est totalement pignon sur rue. Hein. Non, c'est. Pas
Mais c'est un modèle, c'est vrai que c'est un modèle industriel qui est tout à fait particulier, qui est à la fois hyper localisé et hyper mondialisé. Quoi.
Totalement, on a parlé de local, mais ça.
C'est vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Enfin, si en France, on a quoi, un exemple, deux
tiers
exemples.
Que vous avez. Enfin, il y en a.
Deux tiers, peut-être pas, mais.
Il y en a une soixantaine.
Ouais, mais
centaines,
des vrais, quoi. Il y a la Vendée et la Vallée de l'Arve.
Ouais, et puis ils ne se portent pas bien, les autres. C'est pas que tous les districts italiens se portent bien, mais enfin, quand même, là encore, faut raisonner. Il y a les tendances, puis il y a les masses, quoi. Enfin,
Justement, à contrario, comment est-ce que vous pouvez expliquer le retard de développement du Sud? Parce que, bon, on comprend bien que le Nord, il est riche parce qu'il est industriel depuis très très longtemps. Enfin, ça remonte à même avant la Renaissance. Mais dans le développement des pays en général, avec la tertiarisation, la métropolisation, les activités, elles peuvent se repolariser aussi au Sud. Enfin, nous, on a le cas de Montpellier, il y a quand même quelques. Comment est-ce que vous expliquez quand même ce retard de développement italien, quoi, qui Alors, je sais pas, il y a le clanisme, bien sûr, je sais pas, il y a des structures familiales peut-être un peu archaïques.
Alors, il y a un élément qui a joué, par exemple, si entre la France et l'Italie, même le Royaume-Uni ou l'Allemagne, les politiques de décentralisation industrielle chez nous ont bien marché quand même. Bon, ils ont eu des tas de problèmes, d'accord, mais enfin, quand même, ça coïncidait avec un moment, de toute façon, de division interrégionale du travail. Et où il y avait de la main-d'œuvre, etc., on allait la chercher, enfin, ça collait bien. La politique méridionale, par exemple, elle a été beaucoup plus incitative que la politique française, et elle a marché beaucoup moins bien. On se dit, comment ça se fait? Mais c'est lié au développement italien, ça, fondamentalement, aux cycles nationaux de développement. Alors, c'est-à-dire que l'Italie s'est quand même développée, bien sûr, les bases industrielles sont anciennes, mais l'essor économique du pays, c'est vraiment le miracle des années 50-60, à un moment où les entreprises n'étaient pas du tout prêtes à jouer le Sud. Elles l'ont fait, hein. Elles l'ont fait. À la fin des années 60, début des années 70, on a le Sud attire un tiers des investissements industriels, c'est son poids démographique. Donc, pas de peau, juste à ce moment-là, on change de cycle et l'industrie cesse de créer de l'emploi. Mais ça ne veut pas dire que le Sud, à ce moment-là, n'a pas participé à l'industrialisation. Regardez qui sont les ouvriers de Mirafiori, etc. Ça a été très bien étudié par Fressenet, par exemple. C'est exactement la même chose que les immigrés chez nous, quoi. C'est-à-dire les ouvriers non qualifiés des immigrati, c'est-à-dire à l'époque des méridionaux, les ouvriers qualifiés plutôt des piémontais, etc. Enfin, donc, il fait partie des cycles d'essor national, hein, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est le développement tardif, rapide, mais tardif de l'Italie, qui est, à mon avis, une explication importante. Et puis, quand même, c'est un élément que j'ai souligné tout à l'heure, mais c'est l'ambiguïté de. Enfin, il y a plein de possibles liés à la situation euro-méditerranéenne. Pensez à un port comme Gioia Tauro, par exemple, qui était vraiment le truc absolu qu'il ne fallait pas faire. C'était un scandale, il y a eu des infiltrations mafieuses. Enfin bon, aujourd'hui, c'est un port conteneur extrêmement important. Donc voilà, il n'y a pas de fatalité à ce que l'Italie du Sud ne se développe pas. Mais en ce moment, le contexte euro-méditerranéen, ça fait pleurer, quoi. Enfin, mais franchement, là, on a un effet de situation en ce moment qui n'est pas favorable au Sud. Quoi.
D'ailleurs, l'ISTAT, quand même, l'ISTAT a sorti il n'y a pas très longtemps un atlas des systèmes territoriaux, là,
des systèmes productifs locaux.
En fait, on voit bien qu'ils commencent à redécomposer le Sud.
Oui. Ils disent, il faut décomposer le Sud.
Il y a le vieux Sud, qui marine dans son jus, etc. Et puis, alors, ils font apparaître ce qui s'appelle le nouveau Sud, dans lequel on voit les Pouilles, par exemple.
Oui, les Pouilles.
Ça commence à se différencier quand même.
Mais même ça, on a beaucoup insisté dès les années 90 sur l'idée d'un modèle adriatique qui viendrait. Oui, c'est vrai. Après, bah, Pascal Froment la montre très bien que des districts, il y en a aussi à Naples. Enfin, ben, là aussi, il y a beaucoup d'effets de représentation.
Il est composite. C'est pas les districts, c'est les systèmes locaux de travail. Ouais, c'est
les systèmes locaux de travail. Tout l'appareil statistique italien s'est restructuré autour des districts. Quand ils s'en sont rendus compte très tard, de leur district, mais quand ils s'en sont rendus compte, ils se sont dit oh là là, on a vraiment une richesse, pas possible. Et donc, ils ont vraiment repensé l'équivalent de nos aires urbaines en Italie. Ils sont vraiment dessinés, initialement au moins, pour attraper les districts, quoi, pour les rendre visibles. Mais on voit très bien quand même des effets de... Ce qu'on voit, c'est le district du centre-nord. C'est le district de la 3e Italie, canonique, autour de sa ville moyenne. Et on voit beaucoup moins bien les districts métropolitains, qui existent pourtant au nord comme au sud, Milan, à Florence, à Naples, voilà. Mais on est moins calibré pour les attraper,
cela. Oui, c'est vrai.
Je voulais revenir sur un truc pour rebondir sur ta remarque par rapport au modèle européen, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas suffisamment explicité et qui est quand même gros comme le nez de la figure sur ce qui s'est passé en Europe depuis 2008 et qui a absolument un rapport avec le thème de ce cycle sur les géographies de l'argent. C'est l'effet qu'a eu... Alors, bon, ça peut paraître comme une évidence à certains, mais je trouve important de le rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas en tête. C'est les effets financiers massifs qu'a eu la mise en place de la monnaie unique. La monnaie unique, à un moment, a deux effets qui sont très simples, en fait. Le premier, c'est qu'elle fige les taux de change entre les pays. Et l'autre, c'est qu'elle donne un taux d'intérêt unique, à la fois à court terme, mais aussi à long terme, à tous les pays. Or, quand elle arrive, elle est dans une situation... Enfin, les pays d'Europe sont dans une situation qui est loin d'être équivalente. Donc, habituellement, l'Italie avait l'habitude d'évaluer régulièrement et de retrouver de la compétitivité comme ça, parce que finalement, elle a des pratiques... notamment de fixation des salaires qui ne sont pas celles de l'Allemagne, avec une négociation salariale qui n'est pas la même. Et donc, voilà, c'était son mode de régulation d'ajustement de la compétitivité. Par ailleurs, donc ça n'est plus possible depuis 1999, mais bon, même un peu avant. Donc elle a perdu un moyen d'ajustement massif. Par ailleurs, il y a la question du taux d'intérêt. Un pays qui est globalement moins avancé qu'un autre, c'est absolument normal, des prix qui évoluent plus vite. Donc ça veut dire que ce taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le vrai prix de l'argent, avec l'ajustement de l'inflation, est plus faible. Donc naturellement, les agents sont plus incités à emprunter. Le coût de l'emprunt, enfin, le point mort de l'emprunt s'abaissant, les capitaux aussi affluent. Et les capitaux du nord de l'Europe ont afflué au sud de l'Europe pour financer toutes sortes de projets, qu'ils soient publics et plus encore privés, qui ont accru la dette. Et tout ça, c'est quand même un peu des effets de structure de la monnaie unique. Donc c'est vrai que le jour où la crise... éclate, bon, on va pas revenir là-dessus, mais et où tout à coup le Nord se tourne vers le Sud et leur disent mais enfin comment êtes-vous géré, mais enfin c'est quand même incroyable, en pointant du droit le mauvais état de leurs finances publiques. Alors certes, l'Italie a 130% de dette publique, mais en même temps elle est en équilibre structurel depuis 20 ans pratiquement. Elle fait pas de déficit, elle fait plus de déficit, elle se traîne cette dette absolument impossible à réduire. Mais on ne peut absolument pas la taxer de laxisme budgétaire. Donc voilà, je voulais simplement apporter cet élément macroéconomique un peu évident à la réflexion sur le modèle européen. Cécile.
Moi j'ai une question, alors vous avez peut-être me dire que j'aurais dû... Donc si le tailleur s'est jeté, j'avoue que je n'ai pas posé la question aux collègues de la mission des affaires européennes, et c'est très bête de ma part, mais je voulais savoir si... que vous nous présentez autour de cette Europe du Sud qui va mal et sur la nécessité de repenser un peu les représentations et les grands clivages dans la programmation 2021-2027. Vous souriez parce que vous avez vu ma question arriver.
Non.
Où est-ce qu'on en est? Enfin, est-ce que le sujet est présent dans les débats, et à quel moment, quand on voit ce qui se passe en Italie et ailleurs, on se pose la question justement de, des grands modèles qui seraient bons ou moins bons. Enfin, à quel moment on se pose la question pour la future politique de cohésion?
Tu n'avais pas posé cette question à Jean Quatremer?
Non. Ah, c'est dommage, il est plus au courant que moi. Moi, pour ce que les grands équilibres, je n'ai pas les dernières discussions en tête, mais en tout cas, il y a toujours la priorité absolue donnée aux régions en retard, avec toujours la même définition. Ce qui monte quand même est... Alors d'abord, ça va être quelque chose de plus différencié déjà actuellement, hein, mais ça le sera encore plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de remise en cause. Après, à mon avis, c'est pas une remise en cause. Enfin, c'est pas là. Il faudrait plus, quoi. Et il faudrait plus aussi pour les régions riches, hein, parce que je l'ai montré. Enfin, j'ai essayé de le montrer. La question des franges intra-métropolitaines, elle se pose à Rome, elle se pose à Milan, elle se pose à Paris, bien sûr. Et il faudrait plus pour. Il faudrait plus de budget européen. Moi, c'est surtout ça. Mais là, on n'en prend pas le chemin.
Avec le Brexit, mécaniquement, la part de gâteau de chacun va augmenter un peu.
Mais bon, c'est pas. Je pense qu'il y a, un verrouillage. Alors là, pour le coup, le lien avec l'euro, il est important parce que ça s'est fait au même moment. Et à mon avis, c'est là que ça, qui s'est passé quelque chose de non pas de vertueux, mais plutôt vicieux. Hein, dans le au moment de l'élargissement, on a fait de la place à tout le monde, tout ça, donc très bien. Au même moment, avec l'euro, il y a eu ces tensions sur le pacte de stabilité, etc., etc. Du coup, les États ont dit, puisque c'est comme ça, on n'augmente pas le budget. Enfin bon, là, on a vraiment une crise interne au projet européen. Hein. Je n'ai pas la solution, mais ça fait quand même 20 ans que ça dure. Hein, et ça... Autant, du coup, la politique de cohésion avait eu un effet d'entraînement, moi, que j'ai trouvé quand même important en Europe du Sud, pas seulement en Italie. Dans les années 90-2000, autant là, ça ne suffit pas.
Ben, Laurent Davy avait montré qu'il n'y avait pas forcément concordance entre des logiques de convergence des économies nationales et de cohésion interne au pays. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir convergence des économies nationales, c'est-à-dire rattrapage en termes de PIB par habitant, etc., tout en ayant un étirement du peloton entre les territoires à l'intérieur du pays. Et que même parfois, d'ailleurs, convergence pouvait vouloir dire perte en cohésion. Parce que ça veut dire qu'on a des régions locomotives qu'on va...
C'est plus la question, la convergence.
Comment ?
C'est plus la question, la convergence.
Ça continue à être le moteur de la
convergence. Ça fait 10 ans que c'est la divergence.
Non, pas la divergence des économies nationales, la divergence intranationale.
Oui, j'ai bien compris. Oui. Mais tu vois, quand tu dis la convergence...
Je parlais de la convergence des économies nationales.
Oui, non, mais ce que je te dis, c'est que la convergence des économies nationales est à l'actualité depuis...
Puis alors, l'autre point, mais je reviens sur la question que vous posiez, comment ça se fait que le Sud se développe pas, c'est aussi le problème des régions pauvres de pays riches. Ça illustre ce que dit aussi Laurent Davy. Enfin, c'est... Les intérêts de l'Italie, c'est des intérêts nationaux qui quasi automatiquement vont renforcer le Nord et avec le consentement des investisseurs du Sud. Hein, enfin, je veux dire, les intérêts sont au Nord, d'accord. Après, la question de la solidarité, c'est ce qu'expliquait aussi le collègue allemand, c'est autre chose à la limite. On peut parfaitement admettre que le champion de la France, c'est Paris, allons-y plein pot. Si après Paris se met à jouer tout seul, évidemment, ça ne plaît pas à la province. Enfin, vous voyez, c'est plutôt ce genre de choses. Il y a d'une part des situations de pauvreté, de clivage objectif hein, qui sont à résoudre. Il y a d'autre part la question, le sentiment d'injustice ou l'idée qu'on joue tous ensemble. Et ça, c'est vrai que ça a pris du plomb dans l'aile quand même ces dernières décennies en Italie. Hein, pas qu'en Italie. Hein, mais...
On va rester là. Merci. Ah, puis...